geredet hast in den vergangenen Zeitaltern,
Seigneur, ce que tu as déjà dit dans tous les temps passés et que tu as déjà accompli de ta parole merveilleuse. Seigneur Jésus, nous te sommes très reconnaissants que tu nous aies rendu dignes de travailler avec toi, d'œuvrer avec toi dans ton œuvre. Quel privilège ce matin.
Amen. Weine nicht, siehe.
Ne pleure pas,
vois.
Il a vaincu. Le lion de la tribu de Juda.
Nous
avons commencé par cette parole dans la conférence et je voudrais juste le répéter.
Es hat überwunden der Löwe. Der,
il a vaincu.
Der einsetzt, Könige einsetzt, Könige absetzt.
C'est celui qui instaure et qui destitue les rois.
Galt nicht nur in der Zeit, als der Herr
ça n'a pas seulement été le cas durant la période de vie de Jésus sur la terre, ni pendant que ces paroles ont été écrites, mais ça vaut toujours aujourd'hui. Tous les rois qui existent aujourd'hui sur la terre, tous ces rois qui pensent qu'ils sont si importants, c'est le Seigneur qui les introduit, qui leur donne leur place. Et c'est lui qui définit les temps. C'est merveilleux. La durée des temps, tout est en lui. Il travaille de cette manière. Lui, il a tout en main. C'est si rassurant. Ce lion, nous voulons le voir tous les jours. Quand nous sommes menacés dans nos pensées, quand nous sommes distraits, pensons-y, revenons à lui. Seigneur, c'est toi qui détermines les temps et les frontières. Il y a un temps d'ici à là, pendant lequel quelque chose se passe, nous l'avons entendu dès le début, même les guerres mondiales, le Seigneur les a utilisées pour son œuvre. Si la Deuxième Guerre mondiale aurait duré 5 ans de plus, eh bien Israël n'aurait pas pu être fondé dans le temps que Dieu avait prévu pour ça. Le Seigneur sait quand il doit commencer et terminer. Et aussi, durant ce temps de pandémie, il y aura un temps de fin. Il détermine les temps et les moments et les frontières. Et merci Seigneur pour cela. Et comme nous avons entendu hier, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. N'écoutons pas des choses à son sujet, mais écoutons-le lui directement. Apprends à discerner. Est-ce que c'est le Seigneur? Ou est-ce que quelqu'un ici parle simplement de lui? Et je le dis de façon directe. Tous les chrétiens peuvent parler au sujet du Seigneur parce que nous avons tous reçu ce Seigneur. Mais ce n'est pas une garantie que la parole qui sort d'un chrétien, d'un croyant, que c'est la parole du Seigneur. Ne mets pas cela sur un pied d'égalité. Oui, ça vient d'un chrétien. Non, ça peut aussi venir d'une pensée humaine, d'une pensée déchue. Écoutez-le. Et il nous regarde avec ses 7 yeux, les 7 esprits. Les 7 esprits sont répandus sur toute la terre. Et nous voulons toucher cet esprit-là. Louez le Seigneur. Comme ça a été confirmé ce matin, le Seigneur fait une œuvre. Nous avons eu ce titre hier, l'œuvre de Dieu. Je
ne
sais pas si ça vous a frappé. Quelle est l'œuvre de Dieu? Il n'y a qu'une œuvre, l'œuvre de Dieu. Tout le reste, ce sont des œuvres humaines. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur a montré cette différence très nette. Quand Pierre avait une bonne idée,
Herr von seinem Tod gesprochen hat, das war ja ein Teil.
Quand le Seigneur a parlé de sa mort, c'était une partie de son œuvre. Il était en chemin pour bâtir l'Église.
Da sagt er in Vers 22 von Matthäus 16.
Il dit dans Matthieu 16, 22, cela ne t'arrivera pas.
Und wenn wir das mit diesem Blick von gestern Abend noch mal anschauen,
et en voyant cela dans la lumière de hier soir,
sein ganzes Werk darauf ausrichtet, seine Gemeinde,
combien le Seigneur veut diriger toute chose pour produire son Église. Et combien sa mort aurait été importante, une étape si importante pour produire cette Église. Et il y en a un qui dit, « Oh non, non, ne meurs pas, reste parmi nous. » Et il a dit, le Seigneur a répondu,
«
Arrière de moi, Satan, au verset 23, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Les hommes, les pensées des hommes. Ce qui a préoccupé les hommes à cette époque, c'était « Mais reste avec nous, deviens roi, libère-nous de ces mauvaises puissances qui règnent actuellement les Romains. Il faut mettre un terme à ça. » Et Jésus dit « Arrière de moi, Satan. » C'était un autre domaine. Pierre ne connaissait pas encore ce pourquoi le Seigneur était là et ce qu'il était en train d'accomplir. Les pensées des hommes, qu'est-ce que l'homme? Il est passager. Il est comme une vapeur et il disparaît.
Heute Morgen hat jemand gelesen, dass die Gedanken eines Menschen verschwinden in dem Moment, wo er stirbt.
Les pensées d'un homme, toutes ces idées s'en vont une fois que la personne meurt. Est-ce que tu es conscient de ça? Quand tu meurs, c'est comme une vapeur qui est partie. Oui, tu peux peut-être lire une œuvre. Tu peux peut-être lire une biographie dans Internet. Mais ils sont passés. Nous sommes passagers.
Et en gegensatz dazu, gibt es ein anderes Reich.
Et là, en contraste avec cela, il y a un autre royaume.
Johannes 18 aufschlagen.
Ich komme nachher auch noch mal dans drauf. Jean 18.
Diese Situation, wo der Herr vor dem Pilatus stand.
Où nous voyons Jésus devant Pilate.
Da fragt der Pilatus ihn nämlich in Vers 33.
Pilate lui demande à Jésus au verset 33. Es-tu le roi des Juifs?
Also der dann die Herrschaft der Römer mal kurz umwirft, umstürzt.
Donc, es-tu celui qui veut renverser le pouvoir des Romains? Es-tu contre le pouvoir que nous exerçons ici? Le Seigneur lui répond, verset 36,
Jesus antwortete,
mon royaume n'est pas de ce monde.
Kann man sagen, ja, aber Moment mal, ja, die Frage war eine andere.
Attends.
Er hat gesagt, mein Reich ist nicht.
Mein attends, c'est quoi maintenant ton œuvre? Il a simplement dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce lion,
dieses Lamm auf dem Thron hat ein Reich.
Cet agneau sur le trône a un royaume.
Was ist das für ein Reich?
Quel est donc ce royaume?
Vielleicht kann jemand mal oder vielleicht die Geschwister in Karlsruhe können mal vielleicht vorlesen Hebräer Kapitel 12.
Peut-être les frères de Karlsruhe pourraient lire dans Hébreux 12, 27 et 28. Hébreux 12, 27 et 28.
Noch einmal deutet an, dass das Geschaffene, das
une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. C'est bien de craindre. C'est bien de voir cette différence toujours, de la remettre sous nos yeux. Ce qui a été créé, c'est-à-dire ce qui est de la terre et des cieux, ce sera ébranlé un jour. Ce qui a été créé est ébranlable et cela sera mis de côté. C'est important que ces choses qui sont actuelles, ce monde d'aujourd'hui, tout ce qui nous occupe sur la terre sera mis de côté un jour. Ne le prends pas tellement au sérieux. Ne t'en préoccupe pas tellement. Même les règles de Corona seront un jour mises de côté. Bien sûr, il y a tant de choses qui ne me plaisent pas par rapport à ça. Mais le Seigneur se préoccupe d'un autre royaume. Mon royaume n'est pas de cette terre. C'est un autre domaine. Le Seigneur, dans sa prière, dans sa dernière prière, a dit aussi que nous n'étions pas de ce monde, et que le monde, par conséquent, nous hait, nous déteste. Et Jésus poursuit en disant, je ne suis pas non plus moi de ce monde. Ce n'est pas notre domaine. Ce n'est pas à nous. Et donc, il prie aussi que nous soyons préservés du malin. Et ça veut dire que le Seigneur sait très bien que nous sommes attaquables pour les choses de la terre. Mais pensons, répétons-nous-le, quelle est la source? La source qui vient nous attaquer, c'est le diable, qui veut nous distraire de notre royaume céleste. Il veut nous occuper avec des choses terrestres, pour que nos pensées soient remplies de choses d'occupation, et que nous manquions ce pour quoi nous sommes appelés. Quelque chose de tout autre. Soyons sobres. Veillons. Car l'ennemi veut toujours nous embobiner. Il veut toujours nous restreindre, de plus en plus, toujours. Beaucoup d'entre nous connaissent Lot, comme il a été arraché de Sodome. Et j'ai lu comment il est même arrivé jusqu'à Sodome. Il est le neveu d'Abraham. Je voudrais lire quelques versets pour rappeler les choses. Dans Genèse 13, verset 12, il est dit, Abraham, Abraham a demandé à Lot de décider où il voulait aller dans le pays de Canaan, et il choisirait un autre endroit. Et donc on arrive au verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc il a monté ses tentes jusque vers Sodome. 14-12. Maintenant, il y a eu une guerre, une bataille. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. En fait, là, on voit qu'ils demeuraient à Sodome. Donc Lot est déjà entré dans la ville. Au début, il était juste aux environs de Sodome. Ensuite, il est dans la ville. Et dans le chapitre 19, verset 1, les deux anges sont venus de nuit à Sodome. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Ensuite, là, il est carrément quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui avait une place d'honneur et qui défendait les sodomiens. En très peu de temps, cela s'est produit d'une façon très subtile. Frères et sœurs, purifions nos cœurs, éprouvons nos cœurs. Son royaume n'est pas de cette terre. Où est mon cœur? De quoi mon cœur s'est-il occupé ces derniers mois? Avec son royaume ou avec les choses de cette terre? Éprouve simplement ton cœur devant le Seigneur. Il te donnera la lumière. Nous avons entendu ces versets. La grâce et la paix te soient données de la part des sept esprits. Laisse pénétrer un de ses yeux dans ton cœur et éprouver ce qu'il en est de ton cœur. Nous avons toujours la possibilité de nous repentir. Seigneur, je veux être avec toi, tu es ce roi. Je veux être dans ce royaume. Ce royaume inébranlable. Peut-être quelqu'un d'ici à Stuttgart peut lire dans Daniel le chapitre 7. Daniel 7, 27.
Peut-être quelqu'un de les jüngeren Brüdern oder Schwestern.
Les jeunes frères et sœurs.
Vers 27, das beschreibt in wunderbarer Weise noch einmal.
Ça décrit de manière merveilleuse son royaume. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.
Lob den Herrn.
Amen.
Reich ewiges.
Son règne est un règne éternel. Daniel en a déjà parlé des centaines d'années avant la venue de Jésus. Il y avait déjà un début sans fin là. Nous sommes dans ce même royaume qui n'a pas de fin. C'est bien mieux qu'un royaume qui aura une fin qui sera ébranlée. Quand la pandémie a commencé, tout a été ébranlé, on peut dire. Toutes les règles ont tout d'un coup été bannies. Tant de fois, elles ont été changées depuis lors. Mais son royaume est un royaume éternel. Amen. Et il nous a transférés dans ce royaume, hors du royaume des ténèbres, dans le royaume du Fils de son amour, transférés. Et même davantage, il nous a assis avec lui dans les cieux. C'est notre position aujourd'hui, je suis assis aujourd'hui dans les cieux, loin des choses de la terre qui préoccupe toutes les personnes ici en bas. Considérons le peuple d'Israël qui était en Égypte, qui ont été appelés hors de ce pays, qui ont passé au travers du Jourdain. Il n'y avait là déjà plus de retour possible, mais ils se rappelaient toujours dans leur pensée, « Ah, que c'était bien en Égypte. Oh, que c'était bien de manger de la viande. » Et même le Seigneur était tellement miséricordieux qu'il leur a même donné de la viande dans le désert. Et après 40 ans, ils sont repassés au travers de l'eau, et ensuite ils sont passés dans le bon pays, loin de l'Égypte. Là, ils ne pouvaient plus retourner en arrière. C'était fini. Nous aussi, nous avons été transférés. Nous avons été transférés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons un royaume tellement meilleur. Une atmosphère tellement meilleure pour notre vie. Nous avons été transférés, transmis dans les cieux. Et que faisons-nous de ce royaume maintenant? Comment vivons-nous? Jean, laissé transparaître à plusieurs reprises dans Apocalypse. Dans le chapitre 1, verset 10, il dit ce qui était sa position, quel était son exercice. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. En allemand, c'est « j'étais en esprit ». J'étais en esprit au jour du Seigneur. Alléluia. Une fois, c'est un ange qui lui a parlé, et une autre fois, quelqu'un lui a dit, viens, monte ici, je vais te montrer quelque chose. Et là, c'est aussi, mais j'étais immédiatement en esprit. C'est notre domaine aujourd'hui, notre sphère d'activité. Nous sommes en esprit. Et comment voyons-nous notre journée? Comment nous rencontrons-nous les uns avec les autres? Est-ce que j'ai cet exercice? Je voudrais être en esprit. Je voudrais avoir une communion d'esprit avec toi. Nous nous invitons les uns les autres pour manger, pour le café. Nous passons les uns chez les autres. Nous nous appelons, nous nous téléphonons. Mais avec quoi sommes-nous occupés? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Je ne parle pas que des réunions. Oui, louez le Seigneur, ce matin, nous avons une bonne communion en ligne. Mais qu'est-ce qui nous préoccupe dans notre vie quotidienne? Quel thème, quel sujet tourne dans notre tête? Ayons cet exercice d'être en esprit. Je vois des frères et sœurs, et quand je les vois dans la rue, c'est un exercice. Hey, monte ici. J'étais en esprit. Je me tourne maintenant vers mon esprit. Et c'est un exercice. Il y a quelques semaines, j'ai fait une expérience. J'étais dans mes pensées par rapport au travail. Je suis rentré pour manger et j'ai entendu que quelqu'un était en visite chez nous et que cette personne invoquait le Seigneur quand je suis arrivé. Et puis j'ai réalisé, waouh, mais je suis loin, loin. Seigneur, je dois me tourner vers mon esprit. Maintenant, Timo, tu dois te décider. Tu te tournes vers le Seigneur, vers ton esprit, ou alors tu manques quelque chose. Et le Seigneur a donner sa grâce, et je dis, Seigneur, je me tourne vers toi. Et je laisse toutes ces choses qui me préoccupent en ce moment. Je veux maintenant vivre dans ton royaume. Amen. Il a déjà tout préparé. On l'a déjà entendu dans Éphésiens 2 ce matin. Il a tout préparé. Reste là-dedans. Reste dans cette œuvre. Et ce que nous entendons ou voyons de toi, ça doit être un témoignage. Qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on entend de toi en tant que partie de cette œuvre? Est-ce qu'on voit ton statut WhatsApp? Tout le monde peut lire ton statut WhatsApp. Nous avons été faits un royaume pour notre Dieu et Père. J'ai pas compris la référence. Ah, Apocalypse 5, verset 10. 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Ils ont été faits un royaume pour Dieu, pour notre Dieu. Ce royaume appartient à Dieu. Nous lui appartenons. Nous avons été rachetés par la mort et il a le droit sur moi parce qu'il m'a racheté. Tout ce que j'ai acheté m'appartient et je peux en faire ce que je veux. Laisse ce roi régner en toi. Amen. C'est notre responsabilité de vouloir vivre dans son royaume. Il y a d'autres lois dans ce royaume. Ce sont les lois de l'esprit de vie qui règnent dans ce royaume. Ce ne sont pas mes propres lois qui doivent être amenées dans ce royaume, mes propres idées. Nous vivons dans la région frontalière avec la Suisse. J'ai appris à faire mon permis de voiture entre l'Allemagne et la Suisse. Par rapport à la circulation, il y a d'autres règles entre l'Allemagne et la Suisse. Je dois me limiter aux règles du pays. Ouais, quand tu dépasses la limitation de vitesse en Suisse, c'est ça qui te coûte cher. Il y a d'autres lois dans un autre pays. Dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les lois humaines qui sont respectées. Ce n'est pas pour dire maintenant je m'en fiche de tout. Non, pas du tout. Nous verrons comment le Seigneur lui-même a vécu dans ce royaume. C'est simplement un autre royaume. C'est un autre domaine. Et je voudrais vous montrer maintenant comment les frères du Nouveau Testament se sont préoccupés des choses terrestres. Par exemple, dans 1 Pierre, au verset 2, au verset 9, 1 Pierre 2, 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, vous avez été racheté, vous avez été transféré. Bien-aimé, je vous exhorte, le verset 11, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous abstenir des convoitises charnelles. Nous sommes environnés de convoitises charnelles. Ils crient carrément, on les voit sur Internet, sur des pancartes, des publicités, mais éloigne-toi, distancie-toi de ces choses. Non, c'est pas mon domaine, ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas de ces choses, ce n'est pas le royaume du lion que j'ai vu. Nous avons besoin de prendre cette décision. Seigneur, non, je ne veux pas regarder ces choses. Je ne veux pas de ces choses. Dans le Nouveau Testament, il y a peu de versets qui, avec peu de mots, nous disent comment nous comporter. Plusieurs fois, c'est très court ce qui est dit. Par exemple, Luc, pensez à la femme de Lot. 4 mots. La femme de Lot s'est retournée et a voulu poser ses regards sur le terrain qu'elle venait de quitter. Elle voulait regarder, en fait, sur ce qu'elle avait perdu. Tout ce qui est devenu cendre et poussière en un instant. Pensez à la femme de Lot. Frères et sœurs, pensez à cette femme. Et dites-vous, Seigneur, je n'appartiens pas à ce royaume, j'appartiens au royaume de Dieu qui est éternel. Avec quoi suis-je préoccupé? Qu'est-ce qui m'occupe? Ne regardons pas en arrière, mais regardons de l'avant. Louez le Seigneur. Nous sommes mis à part de ce monde pécheur, déchu, tombé, et mis à part aussi du monde religieux. Le Seigneur sur la terre avait beaucoup à faire avec ces gens qui prétendaient suivre Dieu. Ils étaient toujours en chemin de notre Seigneur et ils le reprenaient et ils étaient en constante contradiction avec lui. Oui, mais dans l'Ancien Testament, il est écrit. Oui, mais regarde là. Ils argumentaient toujours avec le Seigneur. Dans Matthieu 16, le verset 12, on voit encore une fois cette parole sur le levain. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Il les a pris de Jérusalem et il les a amenés sur une montagne libre de toute influence religieuse, de toute activité religieuse, de toutes ses œuvres religieuses. Il les a libérés de tout ça et il les a amenés sur la montagne. Et lui-même s'est révélé à eux à cet endroit-là. Par la révélation que Pierre a eue, tu es le Christ. Tu es le Christ. Et le Nouveau Testament montre régulièrement combien Dieu, qui a parlé à des croyants, disons, entre guillemets, croyants, les pharisiens, les juifs, et ils étaient toujours prêts, ces religieux, de s'accorder pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Regarde avec ce qui s'est passé pour Étienne, quand Étienne a parlé, par derrière, les gens disaient que les juifs étaient unis là, et ils l'ont lapidé. Ça ne leur plaisait pas du tout ce que disait Étienne. Il était dans un autre domaine. Et le Seigneur lui-même, bien sûr, lui aussi, était tout le temps attaqué. Il n'était pas de ce royaume. Il n'était pas de cette terre. Et les Juifs se sont opposés, vraiment toujours opposés à ça. Et ils se concertaient même pour s'opposer à Jésus ou à ses disciples. Dans le Moyen-Âge, tous les véritables chrétiens étaient persécutés. Ils étaient même mis à mort. Tous ceux qui croyaient réellement en Jésus étaient mis à mort par les catholiques à cette époque. Nous pouvons aussi nous agresser les uns les autres. Entre frères et sœurs, en fait, nous avons le même roi, mais nous pouvons nous opposer les uns aux autres. Seigneur, sauve-nous, protège-nous, ne laisse rien se produire dans notre cœur qui pourrait nous opposer les uns les autres. Ils ont même chercher des paroles de l'Ancien Testament pour s'opposer à Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des versets qui sont recherchés pour me conforter dans ce que je fais ici sur la terre. Je cherche des versets qui appuient ce que je fais, quelle est mon œuvre sur la terre. Mais non, c'est pas ce qu'on doit faire. Non, viens à Jésus. Où est la vérité? Elle est dans cette parole. Je je n'ai pas besoin de répéter, je voudrais juste appuyer ce point. La vérité et la vie ne sont qu'en Jésus. Nous n'avons besoin que de lui. Viens au Seigneur. Amen. Ne manque pas le Seigneur juste pour une bonne interprétation. Oh, j'ai lu un truc tellement bien. Ce temps aujourd'hui dans lequel nous sommes, ça, c'est exactement ce qu'il y a dans l'Apocalypse. Regarde, tout est expliqué là. Ça a l'air d'être bien, mais as-tu posé la question au roi? Pourquoi ne te le dirait-il pas directement? Il est ton roi. Il est ton seigneur. Si le Seigneur a sa première place en moi, alors il va vraiment me révéler son œuvre. Amen. C'est pourquoi il est si bon que nous nous ayons les uns les autres, parce que nous pouvons être ramenés à ce qui compte, à ce qui importe, à Christ. Amen. Amen. Dans Matthieu 16, où nous voyons donc Jésus avec ses disciples sur la montagne, hors du smog de Jérusalem, du brouillard de Jérusalem. Alors il leur a posé la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre a dit, « Tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Moi, je te dis que tu es Pierre. » Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. La parole utilisée dans le grec, à cet endroit, c'est l'ecclésia. Ceux qui sont appelés hors de quelque chose, les appelés hors de tout ce qui est terrestre, et hors de tout ce qui est religieux. Mon royaume n'est pas de cette terre. Amen, Seigneur Jésus. Tout le reste va nous détourner de Christ, mais son royaume, avec Christ comme tête sur toute chose, comme le roi, est quelque chose de tellement merveilleux. Quel privilège d'être dans ce royaume, d'être appelé hors de tout ce qui est religieux. Même si je suis né dans l'Église, j'ai grandi dans l'Église. Oui, la religion, c'est tous ces groupes hors de l'Église. La religion vient toujours sur toi. Elle essaye toujours de t'influencer. Le religieux, l'humain, le mélange avec ce qui est aussi divin, c'est du levain. Nous avons une vie ici sur la terre, malgré tout. Ça ne veut pas dire que nous laissons tout ce que nous avons sur cette terre. Qu'a fait Jésus dans le chapitre 22 de Matthieu? Vous êtes appelés, vous avez été délivrés des choses de la terre. Et là, dans le chapitre 22, les versets 17 et suivants, 15 déjà, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et là, ils sont très rusés. Et puis, ils lui disent, « Ah, mais nous savons que tu es le maître, que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu. » Ils sont très, très rusés. Est-ce que tu es quelqu'un d'instruit ou est-ce que tu es quelqu'un de basse situation? Ça n'a pas d'importance pour Jésus. Là, ces instruits, ils disent, est-ce que c'est bien de payer le tribut à César? Alors le... Tous ces grands des Romains étaient bien sûr très craints. Est-ce qu'il faut payer le tribut? Est-ce qu'il faut donner l'impôt? Et bien sûr, il faut servir les Romains, sinon tu vas mourir. Est-ce que c'est juste de donner des impôts? Et je suis très étonnée toujours de la réponse de Jésus par rapport à ça. Jésus connaissait leur méchanceté. Votre méchanceté, il dit. Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier et il leur demanda de qui porte-t-il l'effigie à l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne discute pas, en fait. Fais-le simplement. Et la discussion était terminée. Le thème était terminé. C'était une loi de donner à l'empereur les impôts. Il n'y avait rien à argumenter. C'était pas son royaume. C'était pas. Ça ne lui appartenait pas à Jésus. Pas une fois le Seigneur s'est opposé à ces Romains. Non, il ne s'est jamais opposé aux Romains parce que ce n'était pas son royaume. Il a toujours dit, mon royaume n'est pas de la terre. Les Romains n'ont rien à voir avec moi. Donc, pas d'impôt pour moi. Je ne paye pas d'impôt aux Romains. Si j'étais de ce monde, mes serviteurs seraient intervenus et auraient défendu ma cause. Mes serviteurs, c'est donc nous, c'est toi et moi. C'est dans Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. C'est pas son domaine. Quelle libération! J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin qu'on prenne ma défense. J'ai pas besoin de m'opposer. Allez, payez l'impôt à César. Mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons été rachetés. Comme nous l'avons entendu, c'est beaucoup plus élevé, c'est beaucoup bien supérieur. Nous n'avons pas besoin de perdre notre temps avec les choses du monde, avec ces questions terrestres. Le Seigneur a un royaume si merveilleux qu'il apporte, qu'il amène sur la terre. Il est le roi de ce royaume. Il vit dans ce royaume. Et Pierre dit aussi les mêmes choses dans 1 Pierre 2, on a commencé à lire ça tout à l'heure, versets 13 et 14. Nous sommes des pèlerins sur cette terre et des étrangers. Et ensuite il dit, et il ne dit pas c'est pourquoi il n'y a rien d'intéressant ici, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Mais il dit au verset 12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Oh Seigneur Jésus, donc l'Église, c'est l'assemblée des appelés. Nous sommes sortis, donc nous sommes au-dessus. Et là, il dit, soyez soumis, soumis à cause du Seigneur à toute autorité, au verset 13. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. C'est un témoignage. de l'Église. Quel est le témoignage de l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce qui représente l'Église dans ton lieu? Quel est son témoignage envers l'extérieur? Est-ce que c'est une opposition entre ce qui est juste et faux, ou être soumis à cause du Seigneur pour sa volonté, parce qu'il est notre vrai roi? Tout le reste est un faux domaine. Nous avons été transférés dans son royaume éternel. Son royaume n'est pas de cette terre, je le dis encore une fois. Ne tombons pas dans le piège du diable et de discuter de tant et tant de choses, la 3G, 3G+, et demain c'est encore différent. Moi je suis pour la 4G. C'est égal tout ça. Ce n'est pas notre domaine. Louez le Seigneur. Nous élevons et nous célébrons notre roi et nous œuvrons dans ce royaume. Notre unité n'est pas notre discussion de ces choses terrestres, mais c'est l'unité de l'esprit. Ce que Dieu fait, c'est solide comme le roc et c'est inébranlable. Inébranlable. Amen. Notre unité est l'unité de l'esprit. Et c'est pratique. Seigneur, je me tourne vers mon esprit. Je laisse cette affaire de côté. Je ne veux pas prêter mon oreille à cette chose. C'est une perte de temps. Je veux vivre dans son royaume. Et si tu ne te laisses pas influencer, tu dois juste être vigilant. Tu dois être vigilant pour vivre dans ce royaume. Tu veux collaborer pour que ce royaume puisse être exprimé sur la terre. Ça doit être notre témoignage. Être appelé hors de tout le reste. Il a besoin de nous. Il a besoin de chacun de nous. Il nous utilise. Quand tout était en train de se morceler, les prophètes ont toujours appelé, encouragé, fortifié. Même quand il y avait un grand jugement, Dieu appelait toujours les gens à se repentir dans Sophonie 2, le verset 3. Dieu appelle, il dit, cherchez l'Éternel. Vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Quel appel! Que dit-il à son Église? Cherchez l'humilité, cherchez la justice. Dans le Nouveau Testament, on peut lire dans Romains 6, 13. Ça va bien avec le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Lève-toi, mon esprit. Lève-toi mon cœur. Laisse le monde derrière toi. Paul dit dans Romains 6, 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Encore une fois, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Frères et sœurs, tous ceux qui entendent et qui lisent la parole ce matin, je le dis à nous tous, offrez vos membres à Dieu. Offrez-vous vous-même à Dieu, peu importe où tu es assis maintenant, en ce moment, online ou à Stuttgart, peu importe. Donne-toi à Dieu pour son royaume. Son royaume est en train d'être bâti. Il a besoin de personnes qui sont prêtes à se donner et à bâtir son règne. Amen. Ne regardons pas en arrière. Le Seigneur a besoin de gens fidèles. Nous avons lu dans Luc 9 récemment, et j'aimerais terminer avec ça. Luc 9. Beaucoup ont dit, « Oh oui, je veux te suivre, mais, il y a toujours un mais, je dois d'abord faire ça, je dois d'abord aller faire ça. » Et le Seigneur est très explicite dans les derniers versets du chapitre 9 de Luc, verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il n'est pas digne. » C'est un avertissement pour nous. Il nous a rendus dignes. C'est notre position. Nous avons été transférés. Oui. Mais si mes activités ne se préoccupent que des choses terrestres et que passagèrement j'ai un petit peu un œil sur le royaume de Dieu, je ne suis pas digne. Je ne suis pas propre au royaume de Dieu. Le Seigneur nous avertit. Il a besoin de personnes qui se donnent à lui. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est égal quel âge tu as, que tu sois tout jeune ou très vieux, peu importe. Cet appel, Dieu vous le donne à vous personnellement. Le Seigneur l'a dit aux personnes qui ont été sauvées et baptisées. C'est un appel pour notre vie de l'Église quotidienne. Donnez-vous vous-même à Dieu. Ne regarde pas en arrière. Prends la main, mets la main à la charrue et laisse le Seigneur te conduire pour conduire son œuvre de l'avant. Nous l'avons entendu ou vu ou même dit nous-mêmes. Nous avons dit, quelle année est derrière nous? Quelle année? Confinement, déconfinement, ici, là. Peu importe ce qui s'est passé, donne-toi à Dieu. L'année qui vient est à la porte. Donne-toi maintenant. Donne-toi maintenant pour 2022. Oui, Seigneur, je veux poser ma main sur la charrue. Je veux regarder en avant. Je veux te voir comme le roi de ce royaume éternel. Je veux t'avoir sous les yeux. Toi, dont le royaume n'est pas de cette terre, je me donne à toi. Je me consacre à toi. Je ne veux pas regarder en arrière. Je ne veux pas regarder le passé. Je ne veux pas regarder ce monde. Je veux regarder à toi. En toute humilité, en toute justice, louez le Seigneur.